L'Iran a évolué depuis 30 ans. Si le régime islamique est bien toujours le même pouvoir réactionnaire, il y a eu par contre d'importantes transformations dans la société. Même s'il reste encore un pilier essentiel du régime, toutes cliques confondues, le poids politique de l'islam n'est pas aussi grand qu'à l'époque où les mollahs arrivèrent au pouvoir. Le régime n'est plus autant en adéquation avec la société qu'il l'était alors, dans une société plus agraire qu'aujourd'hui. La jeunesse, qui n'a connu que la République islamique, si elle n'est pas forcément anti-religieuse, est de plus en plus anticléricale et aspire à plus de liberté. La population a beaucoup augmenté. De 34 millions d'habitants en 1976, elle est passée à 70 millions. La société est aussi devenue plus urbaine, une évolution qui avait commencé à l'époque du Shah et qui s'est accentuée depuis. Moins de 40% des Iraniens vivaient en ville en 1966, 47% 10 ans plus tard, et ils sont près de 70% aujourd'hui. Depuis l'époque du Shah, la composition de la société a aussi évolué. La fécondité, qui était de plus de 6 enfants par femme jusque dans les années 80, a été divisée par 3. Cela est dû en partie à la politique de contrôle des naissances, qui a facilité l'accès à la contraception après la guerre, à la fin des années 80. Plus de 80% de la population féminine de Téhéran aurait recours à la planification familiale, et dans les campagnes, la contraception est aussi de plus en plus utilisée. D'autre part, la population était largement illettrée sous le Shah, et ce n'est plus le cas maintenant. Les taux de scolarisation et d'alphabétisation ont beaucoup progressé. À l'époque du Shah, une grande partie des hommes et les 2/3 des femmes étaient illettrés. Ces proportions sont tombées à 20 et 25% de la population en 1996 et se sont encore améliorées depuis. La population iranienne accède bien plus au savoir que dans le passé et c'est un changement important. L'un de ceux qui peuvent miner le régime islamique, d'autant plus que les femmes ont particulièrement su profiter de cette évolution. La situation des femmes, la place qu'elles ont su prendre dans la société, constitue une évolution majeure qui sape le machisme officiel. Elles accèdent de plus en plus aux emplois salariés, même si elles sont encore fortement minoritaires dans la population active. Et en ce qui concerne l'école, elles sont en train de rattraper les hommes. Il est significatif que sur 1,5 million de jeunes qui font des études supérieures, plus de la moitié sont des femmes. C'est mieux que dans la plupart des pays voisins, même quand ils sont soutenus par les Occidentaux. Cela fait partie des paradoxes de cette société, car il y a bien une ségrégation institutionnelle contre les femmes, mais elles ont su la détourner et la contourner pour bénéficier du meilleur que la société peut proposer. Elles ont su résister aux règles les plus réactionnaires, comme celles concernant l'âge du mariage, qui pouvaient leur être imposées à partir de 9 ans, d'après les lois de la République islamique. Or, elles ont obtenu que cet âge légal soit révisé, et dans la réalité, elles se marient en moyenne à l'âge de 23 ans. L'évolution s'est donc faite dans un sens opposé à l'idéologie réactionnaire du régime. Après avoir brisé ses adversaires, il a obtenu un certain consensus, et il a cru pouvoir modeler la société par ses lois, mais il n'a pu empêcher une évolution qui est le ferment des bouleversements futurs. Du côté économique, depuis les nombreuses nationalisations réalisées après la chute du Shah, le secteur public domine. Les mollahs en ont pris le contrôle et ils s'enrichissent par le biais des entreprises étatisées. Ils s'achètent ainsi une clientèle en redistribuant une partie de la rente pétrolière. L'Iran est le 4e plus gros producteur de pétrole au monde et détient les 2e plus grandes réserves de gaz. La dépendance de l'État vis-à-vis des recettes de la vente du pétrole était totale à l'époque du Shah. Et elle est encore importante aujourd'hui, car les ventes de pétrole forment 60% des recettes budgétaires de l'État et les hydrocarbures constituent 80% du montant des exportations. Pour être fluctuante avec le cours du pétrole, les recettes pétrolières permettent le financement d'un certain développement industriel. De nouvelles routes ont été construites, l'électricité a été amenée dans les régions les plus reculées et des progrès ont été accomplis dans l'éducation et la protection sociale. Le système de sécurité sociale, qui inclut assurance maladie et retraite, même très insuffisant, couvrirait 85% de la population d'après les données officielles. L'Iran reste néanmoins un pays sous-développé. Il est d'ailleurs significatif qu'une partie du carburant dont le pays a besoin doit être importée. D'après le Wall Street Journal, faute de capacité de raffinage, l'Iran doit importer 140 000 barils d'essence et de gazole par jour pour un coût de 5 à 7 milliards de dollars par an. L'essentiel de cet approvisionnement en dérivés raffinés est assuré par des compagnies européennes et asiatiques. Après le renversement du chat, il y a eu peu d'investissements dans le domaine de la transformation des ressources naturelles. Le coût économique de la guerre contre l'Irak n'est pas étranger à cette situation. Ainsi, la raffinerie de pétrole d'Abadan, qui produisait 40% de l'ensemble des produits raffinés en Iran, a été complètement détruite pendant la guerre. Alors, l'Iran est toujours la proie des grands groupes étrangers comme Total, qui s'y était implanté en 1954, après le renversement du gouvernement Mossadegh. Dans les années 90, le gouvernement fit appel à l'investissement étranger pour réhabiliter et développer un complexe énergétique dans le but d'accroître la production de pétrole. Les multinationales d'Europe ou d'Asie, qui sont en outre très intéressées par l'exploitation de l'énorme réservoir de gaz partagé entre le Qatar et l'Iran, ont envisagé des investissements de plusieurs milliards de dollars conjointement avec les groupes iraniens. On comprend pourquoi De Margerie, le PDG de Total, se pressait en février 2008 à la réception d'anniversaire du régime islamique, souhaitant renforcer la présence de son groupe en Iran. Malgré les sanctions économiques imposées par les États-Unis, les investissements étrangers directs n'ont pas cessé de croître depuis 1994. Le gouvernement islamique, qui voulait, il y a 30 ans, réduire la dépendance aux revenus pétroliers pour limiter la pression impérialiste, n'a pas le choix. Il reste dépendant des pays impérialistes capables de faire les investissements nécessaires à l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, malgré les sanctions internationales, le gouvernement tente de développer les technologies et la production d'énergie nucléaire. Ce n'est pas une préoccupation nouvelle, puisque c'est le Shah qui avait lancé le programme nucléaire dans les années 60. À l'époque, de nombreux contrats furent passés avec les États-Unis, l'Allemagne ou la France. C'est ainsi qu'en 1974, l'Iran entrait dans le capital du consortium européen d'enrichissement d'uranium, Eurodif, à hauteur de 10%, ce qui lui donnait droit à 10% de la production d'uranium enrichi. Les puissances occidentales font actuellement de grosses pressions destinées à empêcher l'Iran de se doter d'une industrie nucléaire. Le régime iranien nie vouloir fabriquer des armes nucléaires. Mais même si c'est en réalité ce qu'il cherche à faire, ce qui est bien possible, il y a une réelle hypocrisie de la part des États-Unis à vouloir l'en empêcher, alors que plusieurs États voisins, le Pakistan, l'Inde et Israël, disposent de cette technologie et des armes atomiques. C'est le droit du plus fort que les États-Unis imposent en interdisant à l'Iran de posséder la technologie nucléaire alors qu'ils sont, eux, les seuls à s'être servis de la bombe atomique jusqu'à présent. En fait, les pressions occidentales sur ce sujet ont pour objectif d'accentuer la dépendance de l'État iranien en le privant d'une industrie nucléaire. D'autre part, l'Iran cherche à s'affirmer comme puissance régionale en établissant des liens avec les pays voisins, ce qui déplaît profondément aux États-Unis dans la mesure où le régime est fier de tenir tête aux Occidentaux et ne se plie pas aux exigences américaines. Durant ces dernières décennies, l'industrie s'est tout de même développée en Iran, en particulier le secteur de la production automobile. C'est maintenant une industrie qui emploie 500 000 ouvriers. Les groupes locaux Saipa et Iran Khodro se sont liés à des groupes étrangers tels que PSA, Renault, Kia ou Mercedes-Benz. Avec plus d'un million de véhicules assemblés en 2008, la production automobile est devenue supérieure à celle de l'Italie. Le marché iranien intéresse tant les capitalistes étrangers qu'ils sont prêts à y prendre des risques. Ainsi, un ex-directeur de Peugeot Iran évoquait en 2008 dans le journal Le Figaro, je cite, « La 206 et la 405, toutes deux assemblées en Iran, constituent près de 30% du marché automobile iranien et il n'est pas question pour Peugeot de renoncer à ses activités. » Et il précisait « Mieux vaut préserver jalousement sa place en Iran plutôt que de voir un hypothétique compromis avec Washington favoriser un jour le retour des groupes américains. » Avec le marché intérieur, une bourgeoisie iranienne s'est aussi développée, d'autant qu'elle a été favorisée par la politique du régime avec des privatisations. Malgré celle-ci, jusqu'en 2006, l'essentiel de l'industrie lourde, des télécommunications, des transports publics, du secteur énergétique et minier et du commerce extérieur était toujours sous le contrôle de l'État. Durant ces années, des dizaines d'entreprises industrielles ont été cédées à leurs directeurs à des prix de complaisance, une pratique qui s'est poursuivie depuis. L'ayatollah Khamenei, le guide suprême, demanda au gouvernement d'accélérer les privatisations. Il exigea simultanément une meilleure protection juridique, des droits de propriété pour, selon ses termes, favoriser une hausse des investissements privés. Parmi les entreprises importantes qui ont été privatisées, la sucrerie Aftape était à l'origine l'un des grands projets industriels du Shah. Elle débuta en 1975 par l'exploitation de 12 000 hectares de canne à sucre dans le Khouzestan et fut l'une des plus grosses productrices de sucre raffiné au monde. Il y a quelques années, sa capacité de production était devenue 4 fois plus importante qu'en 1979. En 2007, le gouvernement décida de privatiser l'usine et elle fut cédée à l'ayatollah Janati, par ailleurs président du Conseil des gardiens de la Constitution. Loin de favoriser le développement industriel, le passage d'une telle entreprise entre les mains d'un propriétaire privé, tout ayatollah qu'il soit, n'aboutit à rien de bon, car ce bourgeois avide de profit agit comme cela se fait ailleurs, en cherchant à vendre l'usine et les terres dans le cadre d'une opération immobilière, lui offrant un bénéfice immédiat sûrement plus important que la production. Les privatisations ne profitent pas seulement aux hauts membres du clergé, mais aussi à l'armée des gardiens de la Révolution, dont le poids politique et économique est de plus en plus important. Après la fin du conflit contre l'Irak, à partir des années 90, des pasdaran ont obtenu des postes clés un peu partout, dans l'administration, les ministères, les préfectures. Les dirigeants de cette armée, de plus en plus influents dans l'appareil d'État, contrôlent aussi de nombreuses activités économiques et financières. Ils sont propriétaires de ports commerciaux, d'aéroports, de compagnies aériennes civiles et de nombreuses entreprises dans des secteurs très variés. Ils dirigent une partie des secteurs du pétrole et de l'armement. Ces militaires ont aussi la main mise sur les fondations qui gèrent des capitaux importants, dont l'aide sociale destinée aux plus défavorisés. Ces fondations semi-publiques échappent au contrôle de l'administration et sont exemptées de taxes. Les chefs de l'armée des gardiens de la Révolution tentent de renforcer leur emprise sur tout ce qui rapporte de l'argent. Il s'agit d'une nouvelle composante de la bourgeoisie, toute dévouée au régime clérical qui pourvoit à son enrichissement. Cette situation déplaît sûrement à certaines fractions du clergé et de la bourgeoisie, dont un bon nombre de notables ont perdu des postes et de l'influence au profit des chefs des pasdaran. La bourgeoisie du bazar a par ailleurs perdu son monopole sur le commerce avec le développement des centres commerciaux dans la périphérie des grandes villes. L'ex-président Rafsanjani se fait peut-être l'écho du mécontentement de ce milieu. Son opposition déclarée au président Ahmadinejad a récemment abouti à l'arrestation de membres de sa famille, comme c'est le cas pour d'autres notables influents. Toutes ces évolutions ont contribué à ce que le centre de gravité de la société iranienne se déplace vers les villes où la classe ouvrière est de plus en plus importante, avec toutes les contradictions sociales que cela entraîne. Peu après son arrivée au pouvoir, en 2005, Ahmadinejad déclarait vouloir, je cite, « mettre l'argent du pétrole sur la table des Iraniens ». Ainsi, il a tenté de gagner les faveurs des plus pauvres en facilitant le crédit et en distribuant un certain nombre d'aides sociales, utilisant pour cela une partie de la rente pétrolière qui évoluait alors favorablement avec la hausse du prix du pétrole brut. Il a aussi octroyé une augmentation significative des salaires, mais elle fut rapidement rattrapée par une inflation importante. Les mesures du gouvernement, aides et prêts bancaires, octroyées par les institutions publiques et les fondations, sont bien insuffisantes pour compenser l'inflation chronique, le travail mal payé et le chômage. D'autant plus qu'il y a eu de nombreux licenciements depuis 2 ans et qu'un nombre croissant de travailleurs se trouve maintenant sans emploi. Le travail précaire est la règle. Et les salariés qui sont embauchés avec un contrat à durée indéterminée ne représentent qu'environ 20% de l'ensemble. Les salaires sont très bas. Ils se situent souvent entre des montants équivalents à 100 et 200 euros. Et ils sont en plus fréquemment payés avec des mois de retard, voire avec jusqu'à 1 an de retard dans certains cas. Pour les travailleurs, en ce qui concerne les droits et les possibilités de s'organiser, la situation n'est guère meilleure aujourd'hui qu'à l'époque du Shah. Les seules organisations ouvrières reconnues sont les conseils islamiques du travail, dont les dirigeants sont désignés par le régime. Mais des luttes ont lieu, parfois très dures, comme celle des ouvriers de la sucrerie Aftape, qui ont réclamé le limogeage du directeur et la dissolution du conseil islamique du travail, revendiquant le droit à la constitution d'un syndicat indépendant. Les miliciens au service du régime ont molesté les grévistes. Leurs manifestations ont été réprimées et plusieurs ouvriers qui s'étaient mis en avant ont été arrêtés. Le mouvement ne s'est pourtant pas arrêté là. Les ouvriers ont demandé la libération de leurs camarades et depuis 2009, le syndicat des travailleurs de la sucrerie, un syndicat non inféodé au Mollah, a vu le jour. Malgré l'interdiction des grèves et des syndicats indépendants, les travailleurs se battent pour imposer leurs revendications et parfois celles de l'existence d'un syndicat libre. C'est ainsi qu'a été créé le syndicat des travailleurs de la compagnie d'autobus de Téhéran. Ce syndicat est resté totalement clandestin jusqu'à l'organisation en 2005 d'une grève réussie pour l'augmentation des salaires. La répression s'abattit alors rapidement sur les leaders syndicaux, qui furent emprisonnés avec des peines de prison de plusieurs années. Après une nouvelle grève des travailleurs des autobus, en janvier 2006, plus d'un millier d'entre eux furent arrêtés. Les informations concernant la classe ouvrière sont sporadiques et partielles. Elles permettent seulement d'affirmer que, malgré la dictature, les travailleurs iraniens osent se défendre et tentent à l'occasion de s'organiser pour le faire. Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'avec les contre-coups de la crise, la situation des travailleurs s'aggrave. Un autre facteur risque de contribuer à la dégradation de la situation des travailleurs ainsi que plus généralement celle des classes populaires. Le niveau faible, très faible, des revenus de celles-ci est dans une certaine mesure compensé, comme dans beaucoup d'autres pays pauvres, par les subventions étatiques sur les produits de première nécessité. Depuis que la République islamique a remplacé la monarchie, les denrées de base, le blé, le sucre, le gaz, l'essence et d'autres produits, sont largement subventionnées. Cette mesure était destinée à aider les plus pauvres. Mais depuis 2009, le gouvernement d'Ahmadinejad a envisagé de réduire ou même de faire disparaître ces subventions. Leur suppression progressive sur 5 ans est un projet qui a le soutien du Parlement. Des allocations pour les plus pauvres destinées à limiter les conséquences de la disparition des subventions sur les produits de base ont été envisagées, mais ces aides ne compenseraient que partiellement la hausse des prix. L'essence rationnée, mais subventionnée, coûte 100 toumans le litre, mais elle coûte 4 fois plus lorsqu'elle n'est pas subventionnée. Le gouvernement semble craindre que la suppression des subventions s'accompagne de protestations, comme en 2007, lorsqu'un plan de rationnement de l'essence avait provoqué des émeutes à Téhéran. C'est pourquoi, fin 2009, Le Parlement s'est opposé à la disparition totale des subventions, en particulier pour l'énergie. Bien que le gouvernement actuel se revendique de l'aspect populiste du régime islamique, il risque d'être de plus en plus coincé entre ce qu'implique cette politique populiste de mesures en faveur des plus pauvres et l'avidité de la nouvelle couche riche issue de ses propres rangs. Les hésitations autour de la question des subventions reflètent ces préoccupations contradictoires du pouvoir. Dans quelle mesure les travailleurs sont-ils touchés par la contestation politique ? La voient-ils avec sympathie ou avec indifférence ? La mobilisation semble s'être développée surtout dans la jeunesse de la petite bourgeoisie hostile au régime et attirée par l'Occident. Les politiciens qui contestent le gouvernement se font les porte-parole de ceux qui, dans la bourgeoisie, souhaitent des relations plus importantes avec les pays étrangers. Les liens économiques internationaux existent malgré l'embargo. Il est probable qu'une partie de la bourgeoisie souhaite que ces liens se renforcent, que leur pays sorte de l'isolement politique, renoue avec les États-Unis, d'autant qu'Obama a fait des déclarations offrant cette possibilité. Ce n'est pas pour rien que Rafsanjani était le candidat préféré des puissances occidentales lors de l'élection présidentielle de 2005, remportée par Ahmadinejad. Or, ceux qui contrôlent actuellement l'appareil d'État, en s'appuyant sur le nationalisme et l'armée des Pasdaran, sont des freins à cette ouverture. Moussavi, un autre candidat malheureux contre Ahmadinejad, promettait de son côté, lors de la campagne électorale, une libéralisation économique et une baisse du chômage, tout en ne remettant nullement en cause le régime théocratique. Une partie du personnel politique du régime tient donc un langage promettant plus ou moins de démocratie et cherche à plaire aux Occidentaux, tandis que les hommes au pouvoir conservent un discours anti-américain. Les manifestants du mouvement vert n'ont en général connu que le régime de la République islamique et les contraintes qu'il impose. Ils ont peut-être été encouragés à contester par les dissensions qui existent au sein de l'appareil d'État et qui s'expriment de plus en plus ouvertement, même si elles ne sont pas nouvelles. Il se peut aussi qu'à l'inverse, ce soit le mouvement de contestation qui s'étant développé de plus en plus largement et permis à certains prétendants au pouvoir issus du régime de se démarquer et d'apparaître comme des opposants en se faisant porter par la vague de contestation. Dans tous les cas, il semble que la clique disputant le pouvoir aux actuels dirigeants espère capitaliser le mécontentement pour accéder au gouvernement lors d'une révolution verte, ainsi que Moussavi l'appelle de ses vœux, une révolution qui n'emporterait que le nom, comme ce fut le cas en Ukraine avec la révolution orange. Khatami et autres Moussavi pourraient bien constituer une solution de rechange au sein même du régime théocratique. Dans l'évolution future du régime, il n'y a pas que le rapport de force entre clans se disputant le pouvoir qui compte. On ne peut pas faire abstraction des pressions, voire des interventions directes des grandes puissances impérialistes, en particulier des États-Unis. Ceux-ci pourraient parfaitement trouver leur compte dans un changement qui se limite au sommet de l'État, où les dirigeants les plus populistes et les plus anti-américains seraient remplacés par des individus souhaitant l'ouverture vers l'Occident, sur le plan diplomatique comme sur le plan commercial. Que ces dirigeants aient été formés au sein du régime islamique ne les dérangera pas. Les dirigeants des puissances impérialistes savent fêter comme il convient le retour des enfants prodigues. En outre, une transition douce entre Ahmadinejad et un autre, sans toucher au régime, aurait l'avantage de ne pas laisser la population se mobiliser avec ce que cela peut impliquer. Si la mobilisation va en s'élargissant, les classes populaires pourraient alors poser des revendications que ni la classe dirigeante locale et encore moins l'impérialisme n'ont l'intention de satisfaire. Si à Washington, on a su applaudir au moment où elles se produisaient les révolutions arc-en-ciel de l'Est de l'Europe ou d'Asie centrale, c'était surtout parce que ce n'était justement pas des révolutions, ni de près ni de loin. De l'Ukraine à la Kirghizie, de la révolution orange à celle des tulipes, Les masses populaires n'étaient conviées qu'à applaudir. Le changement d'équipe gouvernementale préparait dans les cénacles des cercles dirigeants conseillés par les grandes puissances. Mais c'est dans les craintes des grandes puissances, comme de la bourgeoisie iranienne, qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui se revendiquent de la classe ouvrière. Pour autant qu'on puisse le savoir, la classe ouvrière n'est pas intervenue jusqu'à présent dans les événements qui se déroulent en ce moment en Iran. On peut simplement supposer que, si la contestation se révèle durable, si elle est marquée par des affrontements, la classe ouvrière peut être entraînée dans ce mouvement. Les revendications mises en avant concernent la liberté ou la démocratie sont susceptibles de toucher la classe ouvrière. Elle subit la dictature des mollahs. Et lorsque les travailleurs mènent leur propre combat pour des revendications salariales ou pour créer un syndicat, ils se heurtent aux mêmes gardiens de la révolution que les étudiants. Mais c'est dans le vague des mots que résident tous les pièges de cette contestation, telle qu'elle est aujourd'hui. Recèle pour la classe ouvrière. Le mot « liberté », par exemple, s'il signifie pour tous ceux qui subissent le poids de la dictature une situation où ils n'auront plus à la subir, signifie pour les dirigeants du mouvement simplement la liberté de renouer avec l'Occident et plus généralement, comme pour toute bourgeoisie, la liberté d'exploiter. Si la classe ouvrière, en se mettant en mouvement, ne veut pas pour autant être coincée dans le mouvement vert et refuse le rôle de fantassin dans le combat pour le pouvoir entre deux clics, il lui faudra donner au mot d'ordre vague de liberté et de démocratie un tout autre contenu qui la concerne. Ne serait-ce qu'imposer la liberté de faire grève, la liberté de créer des organisations politiques et syndicales, la liberté de se battre au nom d'objectifs propres à la classe ouvrière. Quant à la démocratie pour les travailleurs, il n'y en aura pas plus avec le régime théocratique, un régime simplement plus souple et plus pro-occidental qu'il n'y en a avec le gouvernement actuel. La classe ouvrière n'aura que les droits démocratiques qu'elle aura la force et la volonté d'imposer. Pour cela, elle a besoin de se donner des organisations qui la représentent sur le terrain politique. Alors les travailleurs se contenteront-ils de renverser le clan au pouvoir pour l'offrir à un autre ? Si, même mobilisés, les travailleurs iraniens se contentaient de se battre contre les Ahmadinejad, Khamenei, ceux qui contrôlent aujourd'hui l'appareil d'État, ils ne feraient que tirer les marrons du feu pour d'autres religieux et des dirigeants plus modérés comme Mousavi, ou même en écartant les religieux du pouvoir, pour mettre en place un régime pro-occidental qui ne changerait rien au sort des travailleurs et des pauvres d'Iran. Ce serait alors une sorte de réédition à l'envers du renversement de 1979. Parmi les très nombreuses choses que malheureusement nous ignorons de la situation en Iran, il y en a une qui peut prendre une importance décisive. Qu'est-il resté du mouvement révolutionnaire de 1979 dans la mémoire collective des travailleurs? Bien sûr, 1979, c'est loin dans le temps et c'est même toute une génération. Mais l'expérience collective profonde d'une classe opprimée se transmet parfois par-delà les générations. En 1979, la classe ouvrière était pleinement actrice du soulèvement populaire qui a renversé le Shah. Il n'était écrit nulle part que les religieux en prennent le contrôle politique. La classe ouvrière, qui avait des traditions de lutte et d'organisation, a été combative et courageuse durant ces événements. Elle n'a pas manqué de détermination pour aller jusqu'au bout, jusqu'au renversement du régime détesté. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur, Ce sont les organisations, et en particulier celles qui, de près ou de loin, prétendaient diriger les classes populaires. Ni le Toudé, ni les Moudjahidines du peuple, ni les Fedaïnes n'ont représenté une politique pour la classe ouvrière. Ils auraient quand même pu représenter une politique hostile à la prise du pouvoir par les Mollahs, mais ils ne l'ont pas fait. Il faut en conclure qu'à cette époque, la seule façon consciente de s'opposer aux Mollahs était de mener une politique représentant complètement et jusqu'au bout les intérêts de la classe ouvrière. Il y a des périodes historiques qui n'admettent pas les nuances, les demi ou les quarts de mesure, et les périodes révolutionnaires sont des périodes comme cela. Alors il ne s'agit pas, dans l'état actuel des choses et des connaissances que nous en avons, de comparer la contestation actuelle à la contestation qui, à partir de 76-77, s'est opposée au Shah pour déboucher sur le soulèvement de 1978-79. Il se peut que le régime de Ahmadinejad conserve encore des soutiens dans les couches populaires, en tout cas dans ses démêlés avec ceux qui se prétendent réformateurs. C'est cela qui permet pour le moment au gouvernement de faire face aussi bien à la contestation qu'aux pressions des grandes puissances. Mais il y a la répression, les violences policières et les arrestations. Et il est difficile de deviner dans quel sens le mouvement pourrait évoluer dans le cas d'une accentuation de la répression. Le gouvernement peut craindre, à juste titre, que la répression, même ciblée sur les étudiants contestataires, finisse par déclencher des réactions dans la jeunesse et même plus largement dans les classes populaires. Même s'il n'est pas certain que la contestation dans les milieux étudiants, la revendication d'obtenir plus de liberté, entraîne la jeunesse des classes populaires, et en particulier la jeunesse ouvrière, c'est à cette possibilité que devraient se préparer ceux qui se placent dans le camp de la classe ouvrière. Et ce que l'on peut souhaiter, c'est que s'y préparent tous ceux du monde du travail ou des intellectuels qui ont compris la signification de ce qui s'est passé en 1979, qu'ils mettent en avant des objectifs qui, au lieu de noyer les travailleurs dans la contestation derrière la jeunesse étudiante, et surtout sous la direction du mouvement vert, cherchent au contraire à les en séparer. Des objectifs qui reprennent des revendications dans lesquelles la classe ouvrière se retrouve, aussi bien des revendications matérielles, économiques que politiques. Un simple changement de la clique au pouvoir ne changera rien pour l'écrasante majorité des classes populaires. Mais la classe ouvrière, organisée, déterminée à défendre ses intérêts politiques et par la même occasion aussi les intérêts politiques d'autres classes populaires, en premier lieu la paysannerie, pourrait par contre changer les rapports de force entre les classes sociales et peser sur la vie politique du pays. Alors, la classe ouvrière est physiquement présente dans la société iranienne, mais sera-t-elle présente demain sur la scène politique ? Et trouvera-t-elle une direction qui corresponde vraiment à ses intérêts ? C'est la question clé de la période à venir.
Nous allons maintenant passer au débat. S'il y a des questions ou des interventions, il y a un camarade avec un micro-baladeur qui peut se rapprocher. Je rappelle que nous souhaitons qu'il n'y ait qu'une seule intervention par organisation et que celle-ci soit limitée à 3 minutes maximum.
Il y a combien de micro-baladeurs ? Il y a quelqu'un ?
Je suis Myriam, ligue trotskiste, le bolchevique. Face à la capitulation de toute la gauche iranienne et internationale au Mollah, dès 1978, nous étions les seuls à dire « Abat le Shah, aucun soutien aux mollahs pour la révolution socialiste en Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais bien vous citer ce que Lutte ouvrière disait à ce moment-là. Je cite « Lutte de classe du 8 janvier 1979, un mois avant la prise du pouvoir par Khomeini. » Je cite « Il ne s'agirait pas forcément de se heurter de front et d'emblée à la direction actuelle au niveau des mots d'ordre et des objectifs immédiats. » Fin de citation. Bien sûr. Donc, ça c'est effectivement une position économiste. Et aujourd'hui, même si Hello ne s'extasie pas devant les manifestations pour Moussavi, ce n'est pas parce que c'est un politicien capitaliste, mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers derrière lui. Dès le début, nous avons porté une attention spécifique à la question femme avec notre mot d'ordre « Abat le voile ». Autant pour les prétentions de Hello à lutter pour les droits des femmes. Aujourd'hui, nous disons « Abat le régime clérical, aucun soutien aux mollahs soi-disant réformateurs ». Et nous appelons à la libération de tous les manifestants anti-gouvernementaux. En Iran, la lutte contre l'oppression des femmes et des minorités nationales exige la révolution prolétarienne dirigée par un parti révolutionnaire résolument indépendant de toutes les forces et classes sociales non prolétariennes. Les impérialistes, ainsi qu'Israël, qui ont tous des armes nucléaires, menacent l'Iran d'actions militaires. Face à de telles menaces, nous disons que l'Iran a besoin d'armes nucléaires comme moyen de dissuasion contre ce genre d'agression. Nous disons, impérialistes, bat les pattes devant l'Iran et tout en appelant à la défense militaire de pays néocoloniaux comme l'Iran ou l'Irak contre une agression impérialiste, nous ne donnons aucun soutien politique à ceux qui le gouvernent. Nous disons, abat tous les cheikhs, colonels, mollahs et bouchers sionistes pour une fédération socialiste du Proche-Orient. La révolution islamique et sa consolidation ont constitué une défaite semblable à l'écrasement du prolétariat allemand par Hitler en 1933, même si à une échelle locale plus restreinte.
Il te faut conclure, cela fait 3 minutes.
Et c'était Kamal. Le début de la fin pour l'URSS. Et Hello, à son petit niveau, a sa part de responsabilité là-dedans.
Merci beaucoup de votre hospitalité. J'ai pas trop envie de parler du contenu de ce que j'ai entendu. Il y a des trucs qui m'ont intéressé, d'autres qui m'ont fait un peu râler, bref. Je voulais juste poser un truc, voilà, je voulais parler d'un gars qui est actuellement en prison au Japon. C'est un réfugié iranien du Parti communiste ouvrier d'Iran, qui est un parti, je crois, qui s'est jamais allié au Mollah. Et je sais pas s'il avait des papiers ou pas, bref, les Japonais l'ont chopé. Il s'apprête à le renvoyer en Iran. C'est un militant, il va se faire massacrer. Et je suis atterrée qu'à Paris, il n'y ait pas eu 10 gus qui se soient présentés devant l'ambassade du Japon avec des pancartes. Mais ce n'est pas possible, il ne se passe rien. Je comprends les discussions théoriques qu'il peut y avoir. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est, par exemple, il y a un type, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est justement au syndicat des autobus dont vous parliez tout à l'heure. Il est en train de crever dans les prisons de Téhéran, enfin des mollahs. Il n'y a pas 10 personnes en France qui sont foutues d'aller devant l'ambassade d'Iran. Il y a eu des trucs à la haie, il y a eu des petites choses, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, sur ce réfugié qui est au Japon, qu'il y a des gens, ça passe par Internet, ils envoient des fax à l'ambassade, etc. Mais c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà, j'ai les boules. Merci.
S'il y a pas d'autres questions, je redonne la parole à Anne Brochet.
C'est pas grave.
À notre camarade Anne Brunet, toutes mes excuses.
Bien, Je pense que la première intervention ne nécessite aucune réponse. La camarade a pu dire à peu près ce qu'elle avait à dire avec un petit bout de citation de trois mots. Bon, bah voilà, tout le monde a compris. Quant aux prisonniers... aux prisonniers politiques ou aux syndicalistes emprisonnés, bah, on est bien sûr, on se sent concerné bien sûr par tout ça. Y a certainement des militants, que ce soit au Japon, en Iran ou ailleurs, beaucoup de militants un peu partout emprisonnés, et il y aurait beaucoup de cas identiques à citer, à ce que tu as cité. Hein, donc, c'est vrai que sur le sujet d'aujourd'hui, malheureusement, la liste, elle n'est pas close. Hein, y en a beaucoup. Les syndicalistes du syndicat de la compagnie des autobus sont emprisonnés pour plusieurs années. Ils sont encore quelques-uns, effectivement. Ils n'ont pas les moyens de payer la caution qui leur permettrait de sortir. Seulement... voilà, il n'y a pas que l'Iran, il y a bien d'autres cas à travers le monde où les situations sont identiques, où les travailleurs subissent la répression, et on ne peut que le dénoncer le plus vivement. Et là-dessus, tu as raison, enfin, on est d'accord avec ça.